Au quotidien, prenez les transports en commun.
À l'occasion des 150 ans de la naissance de Maurice Ravel, la Philharmonie de Paris présente l'exposition Ravel Boléro. De sa création aux réinterprétations multiples, l'exposition Ravel Boléro rend hommage à la modernité hypnotique de l'œuvre la plus jouée au monde, à travers des manuscrits, photos, vidéos, esquisses de décors et costumes et objets inédits. Ravel Boléro, un portrait kaléidoscope de l'œuvre et de son compositeur, jusqu'au 15 juin à la Philharmonie de Paris. Détails sur philharmoniedeparis.com.
Dans un instant, retrouvez la suite de votre programme sur Radio Classique.
Renault. On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Pourtant, 50 ans après son lancement, Renault 5 revient pour un second coup de foudre. 100% électrique, jusqu'à 410 km d'autonomie et fabriqué en France.
Profitez de Renault 5 E-Tech électrique avec borne de recharge offerte et jusqu'à 4000 euros de bonus écologique. Borne d'une valeur de 990 euros hors taxe pour un forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 31 décembre, voire conditions sur service-public.fr et Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Le journal du classique avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Notre invité a tissé des liens avec Notre-Dame de Paris, avec sa maîtrise, pour laquelle il compose régulièrement. Jean-Charles Gandry s'est vu même commander une nouvelle œuvre, une messe pour la cathédrale, dont certaines parties seront créées dès la semaine prochaine. Il nous parlera également ce soir de sa musique de chambre, qui vient de faire l'objet d'une publication discographique, et de l'orgue, son instrument pour lequel il vient d'écrire un nouveau recueil. Et puis, comme tous les jeudis, nous retrouverons notre grande voyageuse, Emmanuelle Giuliani, du quotidien La Croix, avec qui nous nous évaderons à Amsterdam, cette semaine. Avant cela, notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Un nouveau directeur musical pour le Teatro Reggio de Turin, Andrea Battistoni, vient tout juste d'être nommé à ce poste. Le chef italien a déjà tissé des liens avec les musiciens de ce théâtre qu'il dirige depuis 2011. Il prendra ses fonctions dès le 1er janvier avec pour mission, nous dit-on, de contribuer à la redynamisation du théâtre initiée par son surintendant Mathieu Jouvin depuis son arrivée il y a 2 ans. En attendant de retrouver ces musiciens dans la fosse pour une nouvelle production des Dialogues des Carmélites de Poulenc fin janvier, c'est sur scène que Ben Glasberg dirigera son orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie pour 2 concerts, demain et samedi, au Théâtre des Arts. Et cela autour d'un superbe programme assez original, comme Ben Glasberg aime les concocter, associant le concert champêtre de Poulenc avec le claveciniste Mehan Esfahani en soliste, la 5e symphonie de Sibelius et puis une œuvre de la compositrice britannique Anna Klein. Concerts qui seront captés par les micros de Radio Classique pour une diffusion sur notre antenne au mois de janvier. Des Noëls français et anglais jeudi prochain le 12 décembre en l'église Saint-Séverin à Paris, mais aussi le 22 décembre à la chapelle du Grand Couvent de Saint-Gramat, des concerts de l'ensemble La Sportelle qui reprendront donc le programme d'un nouvel album de cet ensemble sorti sous le label Rocamadour et intitulé Le Grand Mystère, des pages de Poulenc, Britten, Joséphine Stephenson mais aussi John Tavener ainsi que des chants grégoriens célébrant donc Noël. Interprété a cappella par ce jeune ensemble vocal attaché à Rocamadour et dirigé par Alix Dumont de Bacquer, l'ensemble La Sportelle que l'on écoute ce soir dans un motet de Poulenc.
Pastores dicite, annunciate nobis, in terris quis abalurit,
natum fidim.
l'un des motets pour le temps de Noël de Francis Poulenc par l'ensemble La Sportelle, dirigé par Alix Dumont de Becker, un extrait de cet album Le Grand Mystère, sorti sur le label Rocamadour. L'ensemble La Sportelle en concert donc le 12 décembre à l'église Saint-Séverin à Paris, puis le 22 à la chapelle du Grand Couvent de Saint-Gramas.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Il fait partie des compositeurs sollicités régulièrement par la maîtrise de Notre-Dame de Paris, qui lui a d'ailleurs passé une nouvelle commande, mais s'illustre également dans le domaine instrumental. Et en tant qu'organiste, certaines de ses pièces pour orgue seront d'ailleurs créées lundi prochain au CRR de Paris. Jean-Charles Gandry est notre invité ce soir. Bonsoir.
Bonsoir Laure.
L'actualité, elle est placée en ce moment sous le signe de Notre-Dame de Paris et de sa réouverture imminente dans quelques jours. Une cathédrale que vous connaissez bien, où votre musique a résonné jusqu'à la veille de l'incendie, le 14 avril 2019. Qu'est-ce que l'on a pu entendre à Notre-Dame de Paris?
C'était un Stabat Mater, peut-être le plus court que je connaisse, puisque les compositeurs ont toujours développé les phrases et ont fait des Stabat Mater de 30 minutes. Trois quarts d'heure, une heure. Là, celui-ci, je l'écris, il fait 5 minutes à peu près. Et ce sont comme des litanies obsessionnelles qui défilent le texte donc du Moyen-Âge. Cette œuvre, elle a été beaucoup chantée à Notre-Dame pour les offices donc de Pâques et pour le 15 août aussi. Et là, effectivement, il y a d'ailleurs une vidéo sur YouTube qui a été assez vue et qui relate cette dernière polyphonie avant l'incendie. C'est très émouvant.
Comment est née votre collaboration avec la maîtrise Notre-Dame de Paris?
Elle est née par d'abord la commande d'un Magnificat en 2015-2016. Je connaissais Henri Chalet, le directeur, il aimait ma musique et il m'a fait confiance pour cette première commande. Et j'en ai eu d'autres après, donc notamment une œuvre pour 14 trompes de chasse, chœur et orgue, qui a été donnée dans la cathédrale un petit peu après. Et aussi une œuvre pour 2 orgues et chœur, donc toutes les trois données en live dans la cathédrale.
Quelle place, Jean-Charles Gandry, occupe la musique sacrée dans votre vie de compositeur?
Une bonne place. Je suis croyant et je pense que le message des évangiles, l'amour inconditionnel, est important pour aujourd'hui, de même que la beauté. J'aimerais continuer à écrire de la musique sacrée pour cela et en général ça m'inspire.
Thank you.
Le Stabat Mater de Jean-Charles Gandry par la maîtrise de Notre-Dame de Paris dirigée par Henri Chalet avec Yves Castagny à l'orgue. Alors dans cet enregistrement, c'est sur l'orgue de la basilique Sainte-Clotilde, sachant que ce Stabat Mater avait été donné auparavant à Notre-Dame de Paris jusqu'à la veille de l'incendie. Une musique que l'on écoute avec son compositeur Jean-Charles Gandry. Alors la maîtrise Notre-Dame de Paris vous a commandé une nouvelle messe qui sera créée dans son intégralité dans quelques mois, mais dont certains passages seront déjà donnés ces prochains jours dans le cadre de la liturgie.
Voilà, donc à Notre-Dame, il va y avoir toute une semaine à partir de ce week-end où tous les matins à 10h30, il y aura un office pour différents publics et des extraits de ma messe seront chantés samedi 14 décembre. C'est une très grande joie. Il y aura aussi un motet que j'ai composé en 2015 qui s'appelle « O Sacrum Convivium ». Ce sera un très grand bonheur aussi.
Est-ce que l'on écrit de façon particulière pour une maîtrise, pour des jeunes voix et pour un ensemble qui est lié à un tel lieu qu'est Notre-Dame de Paris?
Alors, ce que j'ai pas précisé peut-être, c'est que c'est pour le chœur d'enfants. Il y a plusieurs chœurs dans la maîtrise, un chœur d'adultes, un chœur jeune adulte et le chœur d'enfants. C'était en fait un souhait de trouver cette candeur de l'enfance dans cette composition. Comme j'avais fait justement avec le O Sacrum Convivium qui va te chanter. Le thème, c'était d'écrire un peu à la suite de cette pièce. Du coup, la messe que j'ai composée s'appelle la messe O Sacrum Convivium, qui inclut donc le motet de communion à l'intérieur. Voilà.
Votre musique, on la reconnaît, elle a une patte sonore, elle a un style assez reconnaissable, que ce soit votre musique sacrée ou votre musique instrumentale, que l'on va évoquer également, Jean-Charles Gandry. On parle souvent du qualificatif de minimaliste, c'est vrai qu'il y a un côté minimaliste dans votre musique. Est-ce que vous revendiquez ce qualificatif?
Oui, alors j'appelle ça le minimalisme raisonné. Donc pour les auditeurs, le minimalisme c'est de la répétition en fait, de cellules mélodiques. Il y a les fameux Philip Glass et Steve Reich. Mais ces Américains, je trouve peut-être, je ne veux pas froisser ceux qui aiment cette musique, mais peut-être la répétition est peut-être trop omniprésente. Je me suis inspiré de ça, mais pour la garder en arrière-plan et avec parcimonie. Et bien souvent, au premier plan, il y a le chant.
Et quels ont été vos guides, vos maîtres durant votre parcours? On voit apparaître les noms de Thierry Esquèche, notamment, ou Jean-Louis Florence.
Oui, oui. De grands maîtres. Je dois dire que la rencontre de Thierry Esquèche m'a aidé à gagner des concours internationaux d'improvisation à l'orgue. Il m'a vraiment formé. Et Jean-Louis Florence, grand maître, trop tôt décédé en 2004. Je suis très admiratif de ses œuvres pour orchestre. Et je recommande d'ailleurs d'écouter probablement son chef-d'œuvre qui est L'Enfant des Îles, un grand poème symphonique, parce que ça m'a beaucoup ému de découvrir cette musique. Et je la réécoute régulièrement et c'était un personnage très singulier. Il a fait beaucoup de voyages en Afrique pour découvrir la musique là-bas. Il était très érudit de plein de choses. Il m'a beaucoup apporté. Je l'ai connu en fait lors de stages à Nice et ça m'a beaucoup marqué. Voilà.
Alors vous êtes aussi organiste et donc improvisateur. Est-ce que l'improvisation influence votre écriture? Est-ce que composer a quelque chose d'instinctif chez vous? Ou est-ce que vous différenciez vraiment le compositeur et l'improvisateur?
Alors, j'ai deux postes d'organiste, donc un à Auvers-sur-Oise et un à Rambouillet, qui me permettent d'improviser pendant les offices. Pour moi, c'est comme une sorte de prière. Je me laisse un petit peu aller et j'essaye de faire prier les gens par mes improvisations. Peut-être la composition, puisque on est un peu limité dans l'improvisation, la composition va plus loin en général.
Un extrait du quatrième trio de Jean-Charles Gandry, intitulé Un Angel, un ange, joué par Jean-Charles Gandry au piano, David Galostoff au violon et Grégoire Corneliouk au violoncelle. Jean-Charles Gandry qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. Pourquoi ce thème de l'ange pour ce trio ?
Tout simplement parce que le trio KDM, qui est un trio accordéon et deux percussionnistes, dirigé par Antonin Millet, m'avait commandé un oratorio de Noël il y a quelques années, avec le chœur d'enfants de Notre-Dame, qui avait été créé aussi avec le chœur de la cathédrale de Lyon. Et j'ai repris un des thèmes dans ce trio. Et dès le début de ce trio, en fait, on entend une introduction de piano et après le violon qui énonce une mélodie qui était chantée par les enfants dans l'oratorio.
Et le trio, c'est un genre très inspirant pour un compositeur.
Bah, en tout cas pour moi, j'espère.
Parce qu'on avait écrit 4. Hein.
Oui, c'est une formation que je trouve très équilibrée. On peut entendre distinctement 3 instruments, c'est assez parfait. Et je dois dire que j'aime particulièrement ces 3 instruments, presque plus que mon instrument à l'orgue. Quand je vois les vibrato que déploient les cordes, je me dis c'est très, très sensible, très humain finalement.
Alors cet enregistrement qui est paru récemment sous le label Parati réunit vos 4 trios composés entre 2010 et 2021 et ils mettent en avant la diversité de vos influences, notamment vos emprunts à la pop musique, vos emprunts à la danse. C'est important pour vous d'être à l'écoute aussi de la musique populaire, de vous en imprégner ?
Oui, alors on sait que sur la planète finalement, ce qui est le plus écouté, ce serait la pop musique apparemment. Peut-être... Il y a un aspect simpliste dans les mélodies ou presque un peu pauvre par rapport aux harmonies et notre musique classique. Mais cet aspect dansant est très important pour notre humanité. On a toujours dansé et c'est presque comme si aujourd'hui on retrouvait la musique baroque dans la, dans la danse de la pop music.
Parce que la musique baroque de cette époque s'inspirait aussi de danse populaire, l'équivalent de la pop music de l'époque.
Je pense souvent, bien sûr, aux quatre saisons de Vivaldi qui ont des mouvements très dansants, notamment l'hiver, qui sont presque des cousins de ce que peuvent écouter les gens dans cette pop music ou la techno. Et finalement, c'est un aspect qui me semble important. Et bien aussi, évidemment, la poésie et la mélodie, entre autres.
Voilà, on peut donc découvrir vos quatre trios avec piano, Jean-Charles Gandry, dans cet enregistrement paru tout récemment chez Parati. Et puis, sera créé dans quelques jours, lundi soir, au CRR de Paris, votre recueil L'Organiste Poète, donc des pièces pour orgue, qui ont une dimension pédagogique. Est-ce qu'on peut dire cela comme ça?
Oui, c'est une commande de Sylvie Mallet, l'un des professeurs de ce conservatoire. Le but était d'écrire des pièces pour l'initiation au pédalier, c'est-à-dire que les élèves devaient avoir déjà un petit peu de technique des mains et avec ces pièces pouvoir commencer avec quelques notes les pieds, puisque il y a peut-être pas énormément de répertoire pour ça. Voilà, j'ai composé des pièces progressives, il y a parfois une note, deux notes, et c'est très utile et j'espère que ce recueil aura du succès pour le futur.
Voilà, donc un recueil formateur, mais un recueil poétique. Hein.
Oui, parce que j'essayais de mettre de la poésie et j'essayais aussi par la mélodie aussi, qui me semble importante, et de se trouver un plaisir presque immédiat. Alors j'espère que ce sera réussi, mais j'espère que les jeunes générations, et d'ailleurs aussi les moins jeunes, puisque la plupart des pièces peuvent vraiment être pensées pour des adultes aussi qui commenceraient le pédalier. Il y a notamment deux gymnopédies en hommage à Erik Satie qui sont avec le même rythme d'accompagnement, mais totalement différente et adaptée à l'orgue. Elles peuvent notamment, bien sûr, être jouées par tout le monde.
Voilà, donc ce sont des jeunes qui joueront ces pièces, ce recueil, en création mondiale au CRR de Paris, lundi à 18h30. On va se quitter, Jean-Charles Gandry, en vous écoutant à l'orgue. Quelle est l'œuvre sur laquelle vous travaillez en ce moment?
J'ai des projets d'écrire un cycle pour violon seul, mais c'est encore en réflexion. J'ai déjà écrit une pièce qui s'appelle Hommage à Bach pour violon seul. Et je me dis, peut-être pourquoi pas faire un cycle, puisque je viens de le faire il y a quelques années pour violoncelle seul, un livre pour violoncelle seul, que j'ai dédié à Gauthier Capuçon. Bon, c'est vrai qu'il est très occupé sur plusieurs années. Et finalement, l'histoire, c'est qu'on a décidé ensemble de le faire jouer par un jeune de sa fondation qui s'appelle Félix Rosenbaum. Et il y aura un disque prochainement, au cours de 2025. Voilà.
Gauthier Capuçon, qui est très attaché à votre musique, puisqu'il nous en a parlé. Merci beaucoup, Jean-Charles Gandry. On se quitte en vous écoutant à l'orgue jouer une improvisation. Merci.
Merci, Laurent.
Une improvisation de Jean-Charles Gandry, qui était ici sur l'orgue de la cathédrale de Chartres.
Le coup de cœur de la croix, avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Vous nous emmenez à Amsterdam cette semaine.
Exactement, et nous sommes encore dans l'année 2024, elle qui fut marquée par le bicentenaire de la naissance d'Anton Bruckner, dont les symphonies, comme autant de vastes fleuves orchestraux, constituent un graal et un défi pour bien des phalanges. Et le Royal Concertgebouw d'Amsterdam ne fait pas exception, qui a entamé un cycle Bruckner, qui se poursuivra d'ailleurs en 2025, avec la venue de la chef Simone Jung pour diriger la sixième de ses symphonies, et puis celle de Ricardo Chailly, qui fut autrefois le directeur musical de l'orchestre néerlandais, dans la neuvième de ses symphonies. Mais pour le moment, retour en arrière, puisque c'est la première qui nous intéresse. Alors, première des 11 symphonies que Bruckner écrivit, même si pour des raisons complexes de numérotation, souhaitées d'ailleurs par le compositeur, seules 9 d'entre elles portent un numéro d'ordre. Je ferme cette parenthèse un peu technique. Elle fut composée, cette première, donc qui porte le numéro 1, en 1866, et créée à Linz. D'ailleurs, elle s'appelle Symphonie Linz souvent, en Autriche, et elle a suscité l'admiration du public d'alors, qui connaissait Bruckner comme un grand musicien, mais un grand organiste. Et pour le compositeur, c'était véritablement une première étape, un point de départ, dans sa volonté de s'inscrire à son tour dans la grande tradition des symphonistes du monde germanique, depuis Haydn et Mozart. Le concert mettra d'ailleurs en regard la 40e symphonie de Mozart, l'une des pages les plus connues et légitimement aimées du répertoire, et cet effet de miroir a été souhaité par le chef qui présidera à la soirée, donc les 6 et 9 décembre. Il s'agit de Vladimir Jurowski.
Mais ce n'est pas la première fois qu'il dirige le prestigieux Concertgebouw d'Amsterdam, Emmanuel.
Non. Vladimir Jurowski fait partie des chefs régulièrement invités à Amsterdam depuis 2006, même s'il s'agit de son premier concert Bruckner dans la magnifique salle à l'acoustique mythique. En revanche, le public l'a déjà applaudi à Amsterdam dans des répertoires divers, de Prokofiev et Stravinsky à Debussy, de Liadov à Janáček, sans oublier la création de notre temps, et notamment avec la première du concerto pour violon de Michel van der Aa, avec Janin Janssen qui était en soliste. Vladimir Jurowski est né à Moscou en 1972, il a commencé sa formation dans son pays, mais il s'est installé en Allemagne dès 1990 et il a été révélé au public international au festival de Wexford en 1995, donc très vite après, et après a commencé une très grande carrière qui est beaucoup passée par le Royaume-Uni, Covent Garden, et puis le festival de Glyndebourne, dont il a été le directeur musical de 2001 à 2013. Il entretient maintenant des relations privilégiées avec beaucoup d'orchestres, le Chamber Orchestra of Europe, le Festival George Enescu à Bucarest, la Staatskapelle de Dresde, mais aussi plusieurs formations américaines. Et enfin, cette liste prestigieuse se complète de la direction musicale de l'Opéra de Bavière, où il a pris la succession de Kirill Petrenko. On voit, c'est un musicien aux intérêts divers, dans la fosse d'opéra comme sur le podium symphonique à Amsterdam et ailleurs. Mais là, pour le moment, ce qui nous occupe, c'est cette première symphonie au Royal Concertgebouw, non pas par Vladimir Jurowski qui ne l'a pas encore enregistré, mais par un autre immense chef brucknerien, entre autres Bernard Haitink.
Quelques notes du troisième mouvement de la première symphonie de Bruckner, jouée ici par Bernard Haitink à la tête du Concertgebouw d'Amsterdam. Merci beaucoup Emmanuel pour
Merci
ce voyage
Laure.
À Amsterdam. Merci à Lucille Metz pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, notre invité sera le compositeur Thomas Hadès. Et tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezen.
Vanessa Wagner fêtera sa double actualité discographique avec un récital exceptionnel en deux temps. Le premier sur le ton de la confidence, avec Grieg et Tchaïkovski. Le second, plus extraverti, dédié à Debussy et Ravel, avec son complice Willem Lachumia. Rendez-vous au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, lundi 9 décembre à 20h. Réservation sur théâtredesbouffesdunord.com. Un événement, la Dolce Volta.
Cette semaine dans Le Point, c'est le grand retour du palmarès des hôpitaux et des cliniques. 1400 établissements comparés dans 136 classements et 85 spécialités, c'est l'édition la plus complète à ce jour. Plébiscitée par de nombreux professionnels, c'est la référence pour trouver les meilleurs soins selon votre pathologie. Le palmarès des hôpitaux, un numéro du Point à se procurer de toute urgence.
Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge.
Dans Challenge, cette semaine, dossier spécial école de commerce avec les classements des écoles avec prépa, les post-bac, les bachelors et en prime, les Sciences Po et les universités les plus cotées, ainsi qu'une sélection de doubles diplômes. Challenge, spécial école de commerce, en vente dès aujourd'hui.
h 30, 23h, les variations de Francis Drezel.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ces variations sur Radio Classique. Merci à Laure Maison que vous retrouverez bien sûr dès demain pour son journal du classique. Tout à l'heure, le disco portrait sera consacré à l'un des plus grands musiciens actuels. Il s'agit de Michael Tilson Thomas, qui est à la fois pianiste, compositeur et puis peut-être surtout chef d'orchestre, ayant dirigé notamment l'Orchestre symphonique de San Francisco durant un quart de siècle, de 1995 à 2020. Et il y a un superbe coffret que vous propose Sony pour cette fin d'année, un coffret de 80 CD qui permet justement de constater toute l'étendue du talent de Michael Tilson Thomas, puisque le répertoire va des grands classiques, Beethoven avec une intégrale des symphonies, Brahms, Dvorak, jusqu'à la musique américaine du XXe siècle et en particulier les œuvres de Michael Tilson Thomas lui-même. Alors je vous propose d'écouter tout de suite Michael Tilson Thomas lors du début en fait de son parcours musical qui s'est déroulé, comme celui d'ailleurs de son modèle, Leonard Bernstein, à Boston. Écoutons Michael Tilson Thomas au piano avec l'Orchestre symphonique de Boston dirigé par Seiji Ozawa. Il s'agit de la danse russe de Petrushka d'Igor Stravinsky, un enregistrement qui remonte précisément au 24 novembre 1969. Autrement dit, Michael Tilson Thomas n'avait pas encore tout à fait 25 ans.
Thank you.
l'un des tout premiers enregistrements de Michael Tilson Thomas, en l'occurrence au piano, puisqu'il était le soliste de cette brillante interprétation de la danse russe issue de Petrouchka d'Igor Stravinsky, accompagné par rien de moins que l'orchestre symphonique de Boston dirigé par Seiji Ozawa. Nous étions le 24 novembre 1969 et donc, comme je vous l'indiquais, Michael Tilson Thomas n'avait pas encore 25 ans puisqu'il est né à Los Angeles le 2 décembre 1944. Et parmi ses spécialités, tout comme celle là encore de son modèle, Leonard Bernstein, figurent les œuvres de Gustav Mahler, dont Michael Tilson Thomas a enregistré l'intégrale non seulement des symphonies, mais aussi des cycles de Lieder, avec son orchestre symphonique de San Francisco, des enregistrements qui ont été effectués en public et qui sont publiés par l'orchestre symphonique de San Francisco lui-même, sous le label Davy Music ou de SFS Media. Écoutons tout de suite l'un des plus beaux mouvements lents de Gustav Mahler, pour ne pas dire l'un des plus beaux mouvements lents de la musique. Il s'agit du sixième et dernier mouvement de la symphonie numéro 3 de Gustav Mahler, cette symphonie en ré mineur, qui a donc été enregistrée en public en 2002 par Michael Tilson Thomas à la tête de son orchestre symphonique de San Francisco.